Nous vous invitons à découvrir l'espace égalité situé 6 rue de Valonie à Strasbourg. Pour lutter contre les discriminations et proposer un espace d'éducation au respect et à l'égalité des droits, l'espace égalité propose un parcours interactif et ludique à destination des plus jeunes, 500 mètres carrés issus de la réflexion des acteurs de la lutte contre les discriminations. L'espace égalité, c'est 500 mètres carrés de parcours dans une scénographie soignée où le jeune public est amené à réfléchir sur les discriminations du quotidien, les luttes menées pour les combattre en touchant, agissant, voyageant, dénonçant tout au long de ce parcours. Ce projet porté par la ville de Strasbourg pour qui l'égalité sur son territoire est prioritaire, comme nous l'explique Floriane Varieras, adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la ville inclusive et notamment de la lutte contre les discriminations.
On considère que la lutte contre les discriminations, c'est garantir que le pacte républicain entre citoyens est maintenu. Si on prend la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, eh ben on voit bien qu'avec ces trois mots forts et lourds de sens, la lutte contre les discriminations n'a pas sa place. Et c'est en ça que la ville de Strasbourg s'investit sur ce champ-là, afin de garantir à chacun et chacune les mêmes chances de pouvoir s'insérer dans la vie citoyenne, dans la vie de la cité. Et à Strasbourg, on a mis notamment l'accent sur la prévention auprès des plus jeunes, d'où l'émanation de cet espace égalité qui incarne la politique municipale en lien avec les associations de terrain. Cette prévention auprès des plus jeunes à l'égalité, au respect de l'autre et du coup, in fine, à la lutte contre les discriminations. La volonté de cet espace égalité, c'est de pouvoir sensibiliser le plus possible, le plus d'enfants possible au respect de l'autre et à la lutte contre les discriminations, dans cette idée qu'en faisant de la prévention et de la formation, on est aussi nous-mêmes moins acteurs de discrimination, des fois des discriminations dont on n'a pas forcément conscience, enfin pas forcément volontaire, des maladresses, de l'incompréhension, du manque de connaissances. Et du coup, souvent, ne pas connaître, parfois, on peut avoir des stéréotypes sur des catégories de personnes. L'espace égalité, c'est l'idée d'avoir un lieu qui soit à disposition des équipes pédagogiques de l'ensemble du territoire, principalement les écoles primaires, pour que les enfants puissent venir découvrir et apprendre ce que c'est le respect de l'autre, ce que c'est l'estime de soi, et du coup comment lutter contre les discriminations, et puis comment aussi pouvoir percevoir les mécanismes de discrimination dans notre société. Il a souvent été dit que les enseignants étaient parfois mal outillés pour pouvoir aborder ces sujets-là auprès des élèves. Et donc l'idée, c'est d'avoir un lieu qui concentre les énergies des associations qui œuvrent déjà sur ce champ-là, plus la logistique et l'organisation et la vision de la ville, en tout cas de donner cette possibilité aux équipes pédagogiques de pouvoir se former et de pouvoir emmener les enfants dans l'espace égalité.
Christine Panzer, enseignante en école élémentaire, présidente de l'ASTU, l'Action citoyenne interculturelle, à propos de la jeunesse de l'espace égalité.
La municipalité précédente a mis en place une mission de lutte contre les discriminations. Et cette mission a travaillé avec les associations, les différentes associations engagées sur le champ des discriminations et a organisé un certain nombre de manifestations, dont les semaines de l'égalité en 2012, je crois que c'était la première édition. En 2015, c'est l'année horrible, où en janvier, il y a les attentats, et en novembre, encore une fois. Et donc, les associations telles que la nôtre, par exemple, on a quand même été secoués et on s'est interrogé sur un certain nombre de choses, sur qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là, qu'est-ce qui fait que ces valeurs de la République soient autant pas comprises, qu'il y ait autant de clivages dans ce pays et que faire, comment faire. Ce qu'on a proposé jusqu'à présent, il faut le transformer parce qu'il faut proposer autre chose, quelque chose de plus interactif, de plus dynamique, de plus approprié pour permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, à se questionner, à s'interroger, à s'approprier des questions et à débattre. Et d'où est née l'idée d'un parcours qu'on appelle un parcours interactif, pour pouvoir s'approprier des questionnements, des interrogations, pour avoir accès à un certain nombre de connaissances, de comprendre par exemple que les droits que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas tombés du ciel, qu'ils viennent généralement de luttes importantes, qu'il y a des personnes qui se sont engagées et que les valeurs qu'on défend dans cette République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi lutte contre toutes les formes de discrimination, égalité hommes-femmes, rejet de tout, enfin, du racisme et de tous ces phénomènes un petit peu terribles, bah, y a des choses qui s'apprennent et que ça se travaille et que ça se manipule, ça s'expérimente. Voilà. Donc cet espace, il est né de là, avec une idée de faire un petit peu autrement qu'à l'école, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport frontal de transmission, mais de permettre aux enfants qui viennent ici de tâtonner, d'expérimenter, de découvrir, de confronter, de s'interroger, d'ouvrir des champs, dans une idée précise, développer l'esprit critique.
C'est Maxime qui est chargé de la visite du parcours ce matin-là de juin 2022 d'une classe de 5e du collège François Truffaut de Strasbourg. Un parcours qui se décline autour des droits des citoyens, mais aussi de la découverte de son cadre de vie, comme sa ville, sa mairie, où le groupe est d'ailleurs invité à voter, tous, sauf certains.
Est-ce que vous savez comment ça s'appelle le lieu là où on est ? Espace égalité. Ok. Ça veut dire quoi, égalité ? Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. On est égaux face à quoi en France ?
La loi.
Voilà, face à la loi, et plus précisément, on pourrait dire face à quoi ? Il y a un autre mot. On est tous égaux en quoi ?
Les mêmes droits.
Les mêmes droits, on a tous les mêmes droits. Donc l'égalité, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, parce qu'on est tous différents. Par contre, on a tous les mêmes droits face à la loi. Là, vous avez visité un petit peu la pièce qui est ici. Qu'est-ce que vous avez vu comme... vous avez vu quoi ? Une mairie. Comment vous savez que c'est une mairie ? Alors, il y a moi, si j'écris mairie sur ma porte de chambre, ça en fait pas une mairie. Qu'est-ce qui fait que c'est une mairie ?
Il y a des trucs des votes.
Liberté, égalité,
fraternité. Ok, c'est quoi liberté, égalité, fraternité ? C'est la devise de la France.
Marie.
Ah, presque. Presque Marie. Marianne.
Ah, voilà.
Ok, Marianne qui est aussi un des symboles de la France. D'accord. La mairie, qu'est-ce qu'on peut faire dans une mairie ? Signaler les naissances, faire des papiers. Il y a des mairies où on peut voter. Alors après, ça dépend. Quand il y a des votes, ça peut être les écoles, les bâtiments. Mais là, en l'occurrence, c'est une mairie. Donc, ce que je vous propose de faire, ça va être de voter pour si vous voulez que la récréation de votre collège soit prolongée de 5 minutes. Donc, vous allez pouvoir voter. Donc, tout le monde, sauf ceux qui ont les t-shirts blancs, là. D'accord ? Pour pas qu'on perde trop de temps. Sinon, après, on n'aura pas le temps de faire la suite de la vie. Donc, toi et toi, vous ne pouvez pas voter. Donc, les autres, vous pouvez y aller.
Le groupe est ensuite accueilli dans une salle d'audience d'un tribunal par Madame la juge, parce que la discrimination, comme illustré lors du vote, est un délit puni par la loi.
Jeune fille, s'il vous plaît, vous pouvez venir à la barre.
Alors, votre nom ?
Lina, j'ai 13 ans. Ils ne nous ont pas laissé faire des votes parce qu'on avait un t-shirt blanc et ils ont dit qu'on allait prendre trop de temps après.
Je souhaiterais entendre encore une personne qui a subi cette discrimination. C'était votre cas aussi ? Oui, alors je vous invite à la barre, s'il vous plaît. Alors, votre nom, oui ?
Abdelwahed, j'ai 13 ans. Moi aussi, ils m'ont pas laissé voter parce que j'avais le t-shirt blanc. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont juste dit, tu peux pas voter, et je me suis assis avec les deux autres. Je me suis sentie seule. En plus, on parle de l'égalité et tout, du coup, ça tombait au bon moment.
Vous désignez également cette personne comme étant la personne qui vous a interdit de voter ? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez venir à la barre ?
Maxime et je suis guide sur le parcours de l'espace égalité.
Que vous pouvez nous expliquer les faits ?
En fait, au début, on leur fait faire un vote au groupe qu'on reçoit pour leur montrer un petit peu comment ça se passe quand on vote dans une mairie ou dans des lieux comme ça. Et puis là, comme en fait, le groupe, il avait... les groupes, ils ont souvent un peu de retard parce que le trajet, il est long. Et donc là, aujourd'hui, j'ai décidé que ceux qui avaient un t-shirt blanc votaient pas pour pas qu'on perde trop de temps, en fait. Puis le blanc, moi, en plus, ça me plaît pas trop comme couleur. Donc voilà, j'ai décidé qu'ils ne pouvaient pas voter.
Vous avez privé certains enfants, certaines personnes ici présentes, de leur droit de voter.
Ouais, mais c'est parce qu'il fallait qu'on gagne du temps aussi, donc c'était pas... Voilà, c'était juste comme ça, quoi.
Vous ne savez pas que la loi française interdit toute différence de traitement en fonction d'un critère ? Vous avez déjà entendu parler de discrimination ?
Ouais, comme dit, le racisme ou les trucs comme ça, mais sinon, non, pas trop.
Pour que vous sachiez tous, la discrimination, c'est quand on refuse à quelqu'un l'accès à un bien ou à un service en raison de certains critères interdits par la loi, comme par exemple l'origine, le genre, le handicap ou encore l'orientation sexuelle. Monsieur Maxime, vous êtes accusé de faits de discrimination. Les victimes ici présentes de ces faits ont dit s'être senties attristées. Ils trouvaient que c'était grave, que c'était pas juste. On a même entendu qu'il y a des enfants qui se sont sentis isolés, mis de côté. Vu que vous regrettez vos actes, je serai un peu plus clémente que ce que je pensais au début. Donc, vous êtes condamné à 2 mois de prison avec sursis. Bien sûr, c'est-à-dire que vous n'allez pas directement en prison. Par contre, vous allez effectuer des travaux d'intérêt général, 135 heures, au sein d'une association qui lutte contre les discriminations. Vous allez pouvoir accompagner des personnes qui subissent des discriminations afin que vous compreniez le tort que ça cause et que vous ne recommenciez plus. La séance est levée.
Amener les élèves à se poser les bonnes questions pour déterminer les critères d'une discrimination.
Mais c'est pour dire que quand on subit une discrimination, il y a des cas où on peut en venir à penser que bah, c'est normal d'être discriminé en fait pour ça. Par exemple, vous êtes discriminé à cause d'une différence au niveau de votre apparence physique, parce que, je sais pas, vous avez les cheveux roux, vous êtes en surpoids, vous êtes gros ou autre, et bah il y a des gens qui en viennent à penser que c'est normal. Et à se dire, mais pourquoi je suis roux, qui vont se couper les cheveux, par exemple. Ou autre. Voilà, bref, ça c'est des exemples comme un autre, mais il y en a énormément. Il y a plein de cas de discrimination où c'est compliqué de savoir bah, qui est le responsable, en fait. C'est pas toujours simple. Là, regardez, dans l'exemple qu'on a fait au tribunal, alors moi j'ai fait semblant, bien sûr, mais bon, le personnage que je jouais, a priori, il s'est pas rendu compte qu'il faisait une discrimination, en fait. Il était même pas conscient qu'il faisait de la discrimination. Et même vous, vous avez dit... Non, moi c'est pas très grave, ça m'a pas fait grand chose. Vous en avez peut-être même pas rendu compte pour certains en fait que c'était une discrimination. Et c'est ça qui est compliqué. Quelle raison il y a qui fait, quel critère il y aurait qui fait qu'on peut être discriminé aujourd'hui en France? Alors toi tu avais dit l'origine, toi tu avais parlé de la couleur de peau,
L'apparence physique.
Tout ce qui serait une discrimination liée à la façon dont une personne est habillée, liée à son apparence physique, je sais pas, ça peut être la taille, le poids, la couleur des cheveux. Nationalité, donc qui va avec l'origine, mais qui est un petit peu différente, mais oui.
Le sexe.
Le sexe, donc le fait d'être discriminé si on est une fille ou un garçon. Okay.
L'âge.
L'âge, ouais, c'est un critère de discrimination.
La maîtrise de la langue.
La maîtrise de la langue, ouais, le fait de parler.
Tu viens de l'étranger, tu sais pas trop parler, et il y en a qui se moquent de toi, par exemple, ils t'insultent, et toi, tu leur dis merci, vu que tu maîtrises pas trop la langue.
Alors en tout, il y en a 25 en France, les critères définis. On va pas tous les faire.
Et ceux-là qui sont riches.
Ouais. Le niveau de richesse. Alors, Alain, c'est plutôt les gens qui sont justement, qui sont pauvres, qui vont subir des discriminations. Donc, le niveau de richesse, c'est un critère de discrimination dans la loi. Il y a aussi, par exemple, bah, la religion, auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Hein, aujourd'hui, en France, quand on est de certaines confessions, notamment juives ou musulmanes, on va subir plus de discrimination que les autres. Ça, c'est un fait. Hein. Si vous subissez des différences, des traitements différents en fonction d'une de ces raisons-là, vous avez le droit de le dire, c'est illégal en France. Et malheureusement, il y a plein de gens, bah, soit qui ne le savent pas, soit qui ne s'en rendent pas compte.
Quitter son pays, tout laisser derrière soi dans l'espoir d'une vie meilleure, c'est l'exercice auquel les élèves ont été soumis en se mettant dans la peau de Maureen, une jeune Irlandaise à la veille de son départ pour New York en 1870, en laissant tout derrière elle, ou presque.
Du coup, bah, les Irlandais, et c'est le cas de la famille de Maureen, ils n'ont pas le choix, ils doivent partir en fait. Parce que s'ils ne partent pas d'Irlande et qu'ils restent là, ils savent qu'ils ne vont pas survivre. Et donc, il décide, le père de Maureen, il vient la voir un soir avec sa mère et ils lui disent, écoute, ma fille, bah, demain, on va partir vivre ailleurs, on va prendre un bateau pour aller vivre très loin dans une ville qui s'appelle New York. Alors, c'est une longue traversée en bateau, ça va durer longtemps, plusieurs semaines. Alors, nous, on a déjà prévu plusieurs choses à emmener, hein. On a prévu les choses un peu essentielles. Mais toi, il va falloir que tu emmènes 5 objets de ta chambre, que tu veux. Tu vas pouvoir emmener 5 choses avec toi, parce qu'on n'a pas la place pour prendre trop d'affaires. Votre but, à deux, c'est de choisir 5 objets à prendre de la malle et à mettre dans la valise et que vous allez emmener. Ok ? En imaginant que vous êtes Maureen et que vous devez quitter votre pays et que vous avez une longue traversée qui vous attend pour aller ailleurs. Première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que il y a des gens aujourd'hui qui actuellement doivent encore fuir leur pays comme Maureen. L'Ukraine récemment. Il y a eu un autre pays en début d'année scolaire où les gens ont dû fuir aussi à cause de la guerre. Pardon ? Alors la Syrie, il y a eu, mais c'était il y a quelques années. L'Afghanistan, effectivement, où il y a eu. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine et en Afghanistan ? Est-ce qu'il y en a qui veulent expliquer un peu pourquoi les gens ont dû fuir ?
C'est la Russie.
Ok. Et donc, qu'ont dû faire les gens ?
Bah, fuir.
La guerre.
Ouais. Quels droits ils veulent leur enlever qu'elles avaient en Afghanistan avant ?
Faire des sports, sortir toute seule.
Faire du sport, sortir toute seule, aller à l'école. Ça, c'est des droits qu'ils veulent enlever. Donc les gens là-bas n'étant pas d'accord avec ça, c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont fui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que la guerre de fuir de son pays ? Des gens qui partent de chez eux pour des conditions de vie meilleures. Ok, vas-y.
La santé aussi. Ouais.
Et vous avez des pays aujourd'hui où certaines maladies se propagent et où les gens sont obligés de fuir.
L'opportunité de travail.
Ouais, l'opportunité de travail. Donc ça va un peu avec la vie meilleure, mais ouais, exact. Il y a des gens qui, des fois, fuient leur pays parce que bah ils savent qu'ailleurs, ils auront peut-être un travail, un meilleur travail qui leur permettra de mieux aider leur famille. Exactement.
Donc,
La famine, ouais, on l'avait dit. Alors, il y a aussi la famille, c'est quand on veut rejoindre aussi sa famille, hein, qui habite ailleurs. Il y a des gens, on n'est pas forcément obligé, mais bon, quand sa famille habite ailleurs, bah, on a aussi envie d'être avec eux, donc on part ailleurs pour vivre avec eux. En France, on a beaucoup ça, des gens qui viennent pour le regroupement familial. Il y a aussi les gens, de plus en plus, on va avoir des personnes qui vont être obligées de fuir leur pays à cause des conditions climatiques. Vous avez vu en ce moment les grosses chaleurs qu'on a, bah, il y a des pays, par exemple, j'ai vu hier qu'en Irak, il faisait 53 degrés. Bon, bah, y a un moment où ce sera plus vivable pour les gens, en fait. Et les gens, ils n'auront pas d'autre choix que de partir pour essayer d'aller dans des zones où le climat est plus accueillant. Il y a aussi, par exemple, en France, on a beaucoup de gens. Alors, je le dis parce que je sais que dans des classes de votre collège qui sont venues, il y en a qui l'ont dit dans leur classe parce que peut-être qu'ils avaient des gens dans leur famille où c'était le cas. Tout ce qui est les personnes qui ont dit des réfugiés politiques. Donc, c'est par exemple des gens qui, dans leur pays, bah, se battaient pour les droits des autres. Les droits des femmes, les droits, j'en sais rien, des étrangers, des sans-papiers, des personnes homosexuelles, peu importe, et qui ont dû fuir leur pays parce que bah, là où ils habitaient, bah, ils étaient recherchés, en fait. Et s'ils quittaient pas ce pays-là, ils risquaient d'être arrêtés et jetés en prison parce qu'ils se sont battus pour les droits des autres. Et nous, la France, en général, on accueille les gens comme ça et on les aide à s'installer bah, parce qu'on considère que le combat qu'ils menaient dans leur pays, il est juste et que nous, on doit les accueillir, par exemple.
Retour sur l'exercice d'emporter 5 objets pour les amener à comprendre la difficulté de l'exil et l'espoir de pouvoir rentrer un jour.
À votre avis, qu'est-ce que les gens ils emmènent forcément ? Alors vous, là, Amy, par exemple, aujourd'hui, on prendra le téléphone. Hein, forcément, on ne laisserait pas son téléphone. Est-ce qu'ils ont l'espoir d'y retourner un jour ou ils se disent « Ah, on n'y retournera jamais de toute façon » Qu'est-ce ouais. que vous, comment vous pensez ? Ils ont l'espoir. Alors qu'est-ce qu'ils auraient pu emmener s'ils avaient l'espoir de repartir un jour chez eux ?
Ouais. Ouais, ils auraient pris des souvenirs.
Ah, les souvenirs aussi. Hein. Ça, les souvenirs, c'est un truc, en général, les gens, ils emmènent les photos, le téléphone, parce qu'on a les souvenirs aussi. Il peut y avoir des livres aussi, qui peuvent être des souvenirs. Dans la malle, vous avez peut-être vu, je sais pas si vous avez fait attention, il y avait une clé, normalement, aussi. La clé de la maison. Voilà, donc des fois, il y a des gens qui... Il y a pas mal de classes aussi où les gens mettent les clés, parce qu'ils disent, bah, on va retourner chez nous, de toute façon. Mais ça, bon, c'est des choses, on sait pas forcément, c'est compliqué.
Une salle pour l'illustration des grandes marches et manifestations qui ont changé le monde, d'où l'importance de la mobilisation citoyenne.
Qu'est-ce qu'on a pu faire en France pour avoir accès à des droits ? Qu'est-ce que les gens ont pu faire ?
Manifestations.
Des manifestations. Donc là, effectivement, on va s'avancer un petit peu par là. On a plein d'images de différentes manifestations. Est-ce qu'il y en a certaines où vous arrivez à deviner un petit peu bah, pour quel droit les gens manifestaient en les regardant ?
Au LGBT.
Ouais, ça devait être les manifestations, je pense, pour le mariage des personnes homosexuelles, ou en tout cas pour les droits des personnes LGBT. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres que vous reconnaissez un peu ou vous arrivez à deviner ?
Le racisme.
Contre le racisme, ouais. Regardez, il y a marqué ouais. Marche pour les droits civils. C'est effectivement les marches contre le racisme aux États-Unis. Ouais, c'était les droits pour quoi, ça ?
Pour les femmes pour voter.
Donc en 1945, parce qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter en France. Donc il y a eu des manifestations pour ça. Ça, c'était aussi une marche pour les droits des personnes homosexuelles.
Et de rappeler le manque de représentation de femmes dans les personnages historiques qui ont traversé les siècles, ou même plus proches de nous.
Alors, je vais vous demander de me donner des noms de personnages connus de l'histoire.
Rosa Parks.
Charlemagne.
Christophe Colomb.
Martin Luther.
Erasme.
Mehmed.
C'est qui ? C'est de l'Empire Ottoman.
Bah, pensez à des gens connus, des peintres, des artistes, tout ça.
Cruyff. Sa footballeur.
Zidane. Lincoln,
je ne sais plus comment il s'appelle.
Léonard de Vinci.
Le président, là. Lincoln, je ne sais plus.
Si vous pensez aux rois en France, etc., aux gens qui ont dirigé la France, sur qui ?
Américo Vespucci.
Okay. Quelle différence il y a entre les personnages que vous avez cités ? Vous m'avez dit Rosa Parks, et après vous m'avez dit Martin Luther King, Léonard de Vinci, Vespucci, Louis XIV, le nom du footballeur, j'ai oublié. Bah là, en fait, Rosa Parks, c'est quoi par rapport aux autres ? Donc vous avez vu que instinctivement, quand on se demande des gens connus qu'on connaît, on cite globalement que des hommes. Alors pourquoi on cite que des hommes ? Pourquoi on n'a pas retenu les noms de certaines femmes ?
Parce qu'ils ne s'intéressent pas à les femmes.
À l'époque, les femmes ne pouvaient pas... On parlait pas beaucoup des femmes.
Et aujourd'hui, on en parle toujours pas assez de ces femmes-là. Donc là, on va rentrer dans une allée. C'est le musée des femmes qu'on appelle ici. Vous allez voir, il y a plein de portraits de femmes qui sont, pour certaines, connues parce qu'elles sont encore vivantes, mais pour la plupart, complètement inconnues, alors qu'elles ont fait énormément de choses au même titre que certains hommes. Mais on les a pas retenues.
Avec cet exercice, au-delà de la lutte contre les discriminations, c'est prouver que tous ces personnages connus pour leur engagement ont simplement œuvré pour des causes qui leur semblaient justes et ont bouleversé l'ordre des choses.
Alors, ici on se trouve devant une frise historique que nous on appelle la frise des droits. Ce que je vais vous demander de faire, vous avez vu, il y a plein de portraits de personnages. Il y a ici leur nom, là il y a des images. Donc vous allez pouvoir prendre un petit peu comme vous voulez, bah... les personnages que vous connaissez. Si vous savez pourquoi ils se sont battus, peut-être mettre un mot orange à côté. Peut-être prendre une photo qui est en lien avec ce pourquoi ils se sont battus, puisque là, on n'a que des gens qui ont lutté contre les discriminations et pour les droits de tout type de personnes.
Pourquoi Martin Luther King hein ?
Il s'est battu. Si, lui, donc, il a déjà écrit la date ici, que je l'ai mis là, au XXe siècle.
Choisis qui ?
Rosa Parks. C'est la première personne qui m'est venue.
Nelson Mandela, c'est...
Ah non, j'ai pris... lui.
Footballeur américain ?
Ouais. Josephine Baker, c'est une chanteuse, non ?
Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que ça ? Est-ce que tu sais ?
Le droit des femmes, je pense.
En fait, elle était franco-américaine, franco-états-unienne. Du coup, elle se battait aussi contre le racisme et pour le droit des femmes, et elle a aussi résisté pendant la Seconde Guerre mondiale face aux nazis.
Elle a lutté contre le racisme.
Et en fait, un jour, elle voulait prendre un bus et normalement, tous les Arabes et les Noirs, ils allaient derrière et elle est restée devant. Et c'est des racistes qui l'ont mal pris.
Donc c'était des lois extrêmement racistes et extrêmement discriminatoires où tout était séparé dans la société. Les Noirs n'avaient pas accès aux mêmes écoles, n'avaient pas accès au même travail. Elle, en fait, elle est devenue très célèbre parce qu'elle a commencé à se battre contre ça avec d'autres personnes très célèbres aussi. Par exemple, il y a Martin Luther King qui se battait aussi pour les droits des Noirs. D'ailleurs, si vous regardez la photo de Rosa Parks, ici, on le voit, il est derrière. Et malheureusement, en 1968, vous avez peut-être vu qu'il est mort assez jeune parce qu'il s'est fait tuer, justement, par des gens qui n'étaient pas d'accord avec son combat. Il s'est fait tuer pendant un événement public, en plus, qui était filmé. Il s'est fait tuer à 44 ans, ouais. Voilà, donc lui, Josephine Baker, Rosa Parks, c'est des symboles des luttes contre le racisme aux États-Unis. Les lois de ségrégation aux États-Unis, elles n'existent plus. Est-ce que le racisme, ça a disparu ? Non, ça existe toujours. Par contre, au moins au niveau de la loi, en théorie, les Noirs et les autres personnes ont les mêmes droits. Mais le racisme n'a pas disparu. Et lui, en fait, Nelson Mandela, lui, il se battait contre ça de façon très violente, puisqu'à l'époque, il était considéré même comme un terroriste dans son pays, parce qu'il a fait des attentats, il a attaqué des lieux qui étaient un symbole du pouvoir qu'avaient les Blancs, et pour ça, il a été mis en prison. Sauf que quand il a été mis en prison, il s'est mis là-bas à écrire... il est devenu célèbre, en fait, parce que via la prison, il pouvait écrire quand même des lettres à l'extérieur, des courriers. C'est devenu quelqu'un de célèbre dans le monde entier pour son combat contre le racisme. Et quand il est sorti de prison, les lois de l'apartheid se sont terminées et il est devenu président de son pays. C'est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud juste après l'apartheid. Donc c'est devenu un vrai symbole pour la paix, en fait. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pour la paix dans le monde jusqu'à la fin de ses jours. Et quand il est mort en 2013, son enterrement s'était diffusé sur toutes les télés du monde. Les présidents du monde entier étaient présents. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement célèbre et qui restera probablement célèbre encore très très longtemps dans l'histoire du monde entier, dans le combat contre le racisme et pour la paix dans le monde.
J'ai juste envie de savoir la fille, Greta Thunberg, parce que je la connais pas et j'ai envie de savoir. Elle protège la Terre.
Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a commencé à faire ça, se battre vraiment pour... À quel âge à peu près ?
16 ans.
Ouais, c'est ça. Elle avait 16 ans. Tu sais ce qu'elle a fait quand elle avait 16 ans ? Elle était lycéenne et elle a choisi pendant 3 mois de ne plus aller dans son lycée pour organiser des protestations dans le monde entier sur les questions de l'écologie et des droits de la planète. Et en fait, elle est devenue... son combat et son discours, ça a parlé à plein de gens dans le monde entier et c'est pour ça qu'elle est devenue très célèbre et qu'elle est très connue aujourd'hui. Sa voix, elle a trouvé un écho chez plein de jeunes qui se sont joints à elle et dans les manifestations pour l'écologie. Georges Woodley, lui... C'était en fait, vous avez vu, il est né en 1900 et il est mort en 1943. Qu'est-ce qui se passait en 1943 dans l'IA en France ou dans le monde, en Europe ?
La Seconde Guerre mondiale.
À cette époque-là, qui était le peuple qui était discriminé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Enfin, plus que discriminé d'ailleurs, qui a été tué extrêmement violemment.
Les Juifs.
Georges Baudelet, lui, en fait, c'est un résistant. Il s'est battu contre les nazis. Donc, il a fait partie de l'armée française. C'est un Alsacien, lui, il vient d'Alsace. Et il a fait partie de l'armée française. Et quand l'armée française a perdu la guerre, il a été emprisonné avec d'autres prisonniers de guerre. Il a pu réussir à s'échapper. Et il est devenu résistant. Ça veut dire qu'il a commencé à se battre contre les nazis et pour aider en fait, les juifs à survivre. Et comme lui, en fait, il travaillait à l'équivalent de la RATP et de la SNCF de l'époque, il était cheminot, il s'est servi de son travail pour aider les juifs. Ça veut dire que, par exemple... quand il savait qu'il y avait un train de prisonniers qui allait partir, il se servait de ces informations-là pour détourner le train et pour libérer les prisonniers. Il sabotait les trains dans lesquels les nazis avaient des armes ou autres. Et en fait, un jour, en 1943, il a voulu rejoindre sa famille qui était ailleurs en France, qui était dans une zone plus sûre que l'Alsace, que Strasbourg, sauf qu'il s'est fait attraper malheureusement par la police secrète des nazis, la Gestapo, Ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé et il est mort en fait pas très loin, dans là où la Gestapo avait son siège à Strasbourg. Il est mort sous la torture suite à ça.
Qu'est-ce que tu retiendras de cette exposition ?
Tout ce qui est discrimination et droit. Droit de tout le monde.
Il y a des choses que tu as apprises que tu ne connaissais pas du tout ?
Oui, les personnages qu'on vient d'apprendre.
Ça donne toi envie de mener des combats aussi ?
Oui, pour les femmes aussi, pour le droit des femmes, le droit des enfants aussi. Et sinon, j'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui.
L'espace égalité se trouve dans les locaux de l'école du Conseil des 15, 6 rue de Vallonie à Strasbourg. Pour plus d'informations, www.strasbourg.eu/espace-égalité.